Nous nous intéressons précisément à la rencontre entre le pape François et l'archevêque d'Athènes Hieronymus II, le 4 décembre dernier, à l'occasion de son voyage apostolique à Chypre et en Grèce. Le Saint-Père a en effet exprimé la honte de l'Église catholique et a demandé pardon à ses frères orthodoxes. Mais de quelle honte s'agit-il et pour quelles attitudes y avait-il des pardons à demander ? Pour répondre à nos questions, nous accueillons ce matin Philippe Foureau, diacre, historien, maître de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès, chargé de cours à l'Institut catholique de Toulouse, et enseignant d'histoire du christianisme au séminaire de Toulouse. Bonjour Philippe Foureau.
Bonjour Isabelle.
Alors déjà, en 1054, on va aller un petit peu dans le temps, les relations étaient tendues entre les catholiques et les orthodoxes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, 1054 est en fait l'aboutissement d'une dégradation lente des relations entre le monde oriental chrétien et le monde occidental. Il y avait plusieurs causes de friction qui vont aboutir à une excommunication mutuelle. Ces causes de friction venaient à la fois de raisons d'autorité dans l'Église. Est-ce qu'il y a primauté de l'évêque de Rome sur l'Église ou pas ? Or, les patriarches orientaux, Constantinople, Jérusalem, Alexandrie, etc., avaient une vision plus communautaire de la direction de l'Église. Et qui plus est, le patriarche de Constantinople, nommé par l'empereur, ne voulait pas être soumis à l'évêque de Rome. Donc il y avait cette question de l'autorité. Il y a eu aussi des questions qui apparaissent peut-être plus mineures, mais enfin, la discipline du mariage au sein du clergé. Les orientaux acceptant un clergé marié. Et puis il y a eu le filioque. C'est-à-dire ce changement dans la prière du credo décidé à Nicée. Qu'est-ce qui s'est passé ? À Nicée, en 325, il y a donc ce premier concile qui établit le credo qui est récité finalement
encore aujourd'hui.
Dans nos églises. Mais il y avait la formule, à propos du Saint-Esprit, « procède du Père ». Bien. Or, en 569, au concile de Tolède, qui est un concile régional dans l'Espagne visigothique, les évêques estiment qu'il faudrait rajouter « et du fils, filioque ». Et cette formule n'est pas d'ailleurs adoptée de manière très immédiate en Occident, mais va progresser. Le pape va d'ailleurs mettre quasiment 2 siècles pour reconnaître le changement de formule. Il faut avoir une idée du temps long.
Eh oui.
Les orientaux ne s'aperçoivent véritablement qu'au IXe siècle qu'il y a eu des changements dans le credo de Nicée. Et là, il y a protestation. Alors, je ne suis pas théologien. Des théologiens, sans doute, expliqueraient beaucoup mieux que moi s'il fallait vraiment modifier le credo. C'est sans doute envisageable. Mais c'est surtout la manière de faire. C'est-à-dire que rien... Il fallait qu'à la limite, un texte décidé par un concile œcuménique soit changé par un autre concile œcuménique, ce qui n'a pas été du tout le cas.
D'accord. Alors ça, c'est cette première étape, là, 1054, et puis toutes les étapes que vous avez rappelées. La deuxième rupture, si on peut dire deuxième, entre l'Orient et l'Occident date de 1204 avec, évidemment, tout le monde connaît cette date, le saccage de Constantinople. Quelle part de responsabilité incombe à l'Église catholique à ce moment-là ?
Alors, il faut se replacer dans le contexte. Donc, 1204, quatrième croisade. On va essayer effectivement de libérer à nouveau Jérusalem puisque la ville est tombée dans les mains de Saladin en 1187. Bon. Et les Vénitiens en particulier sont parmi les promoteurs de l'expédition. Ils fournissent beaucoup de bateaux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les autorités de la République de Venise vont détourner la croisade avant qu'elle atteigne la Terre Sainte pour aller vers Constantinople parce qu'il y a des dettes. L'Empire byzantin a des dettes importantes vis-à-vis de Venise. Et en fait, ça va tourner à la catastrophe parce que les croisés latins, catholiques, vont prendre la ville et vont la saccager de manière considérable. Sans que le pape, qui est Innocent III,
ait
donné, même quand on lui apprend ce qui s'est passé, il est même choqué. Et ce sac est terrifiant. Enfin, on a des chroniques byzantines qui nous donnent des descriptions terribles. Si vous permettez quelques citations d'une chronique anonyme, à l'intérieur même du sanctuaire, il parle donc d'une église, les croisés latins, ont introduit une femme perdue de mœurs, sans doute une prostituée qui accompagnait les troupes. S'asseyant elle-même à ce qu'on appelle le Saint-Tronon, elle bénissait les gens, parodiant les gestes de l'évêque. Finalement, elle se leva pour danser, et après avoir tourné le lieu en dérision, elle sortit. Acte inqualifiable. La table d'autel a été détruite. Et un peu plus loin, il ajoute, les linges d'autel, les ornements divins, les vêtements sacerdotaux et épiscopaux furent changés en habits et parures pour des hommes et des femmes, en tapis de sel pour les chevaux. Des reliques de saints furent jetées dans de leurs châsses précieuses et des endroits vils comme des objets souillés. Enfin, bon, je m'arrête là. Vous voyez que, sans compter les morts, ça a été un sac qui est d'ailleurs encore aujourd'hui dans la longue mémoire orthodoxe très présent. Je dirais qu'un orthodoxe peut encore sortir aujourd'hui le sac de Constantinople de 1204.
Oui, donc ce qui explique cette démarche du pape. Et pourtant, il y a eu quand même des démarches de réconciliation où, par exemple, il y a eu le décret d'union qui marquait une forme de réconciliation entre les églises d'Orient et d'Occident. C'était le 5 juillet 1439. Qu'est-ce qu'il disait, ce décret ?
Alors effectivement, c'est dans le cadre du concile de Florence. Mais là aussi, replaçons-nous dans le contexte parce qu'il nous permettra sans doute d'éclairer cette tentative de réunification. L'Église catholique sort de la crise du grand schisme, qui avait été effectivement terrible à la fin du XIVe et début du XVe siècle. Et l'Empire byzantin, eh bien, lui, est agonisant. Les Ottomans sont à ses portes, les Ottomans sont dans les Balkans. Par exemple, la Serbie orthodoxe a été vaincue à Kosovo en 1389. Les Occidentaux, finalement, ont du mal véritablement à réagir face à la pénétration ottomane en Europe du Sud-Est. Et donc, il ne reste plus du Grand Empire byzantin que Constantinople. Et donc, une délégation de l'Église de Constantinople arrive à Florence pour participer à ce concile. Et ils vont accepter, effectivement, un décret de réunification, en particulier en acceptant le principe du filioque. Ah,
donc on y revient.
Et on y revient. Mmh. Et il y a bien dans cette décision, à la fois une décision, je dirais, théologique et religieuse, mais aussi politique, parce qu'ils espèrent que l'Église de Rome va pousser les grands princes d'Occident à mener une guerre contre les Ottomans pour sauver Constantinople. Or, quand la délégation revient à Constantinople, elle est formal accueillie par le clergé et même par une très large partie, visiblement, de la population.
Donc vous voulez dire que ce décret d'union, en fait, il n'a jamais été appliqué.
Il est mort-né, si vous me passez l'expression. Mmh. Il est mort-né parce qu'on estime que la délégation s'est couchée devant les schismatiques. Parce que ne pas oublier qu'on est chacun le schismatique de quelqu'un dans cette affaire. Et il vaut mieux, il y a même une phrase qui va apparaître à ce moment-là, il vaut mieux le turban que la tiare. C'est-à-dire, à la limite, il vaut mieux supporter les Ottomans que la tiare pontificale et les Occidentaux. Et véritablement, ça fait de Florence une tentative qui n'a pas d'aboutissement du tout.
Une tentative avortée.
Et 1453, Constantinople tombe sans que les Occidentaux ne bougent.
Oui, c'est ça. Et alors, on remonte encore plus dans le temps, puisque le pape François s'est excusé pour toutes les divisions qu'il y a eues entre les chrétiens, mais surtout celles que les catholiques ont causées. Et dans l'avion qu'il ramenait à Rome, le pape argentin, dans sa traditionnelle conférence de presse, a précisé qu'il voulait s'excuser en regardant la guerre d'indépendance lorsqu'une partie des catholiques s'est rangée du côté des gouvernements européens contre l'indépendance de la Grèce, alors qu'au contraire, dans les îles, les catholiques ont soutenu l'indépendance et sont même allés à la guerre. Certains ont donné leur vie pour leur pays. Voilà la citation du pape François. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Philippe Faureau, sur cet épisode ?
Oui, parce que tout de même, là, les pays occidentaux interviennent dans la guerre d'indépendance. Donc nous sommes en 1821. Nous sommes dans le cadre de l'ordre de Vienne. Le congrès de Vienne s'est terminé 6 ans auparavant. Et en fait, un des grands principes du concile, c'est la souveraineté des princes. La souveraineté appartient aux princes légitimes qui gouvernent les pays d'Europe. Donc en Grèce, le prince légitime, c'est le sultan des Turcs. Bon. Et l'Église catholique, elle est assez attachée à l'ordre de Vienne parce qu'elle a été véritablement traumatisée par la période révolutionnaire et napoléonienne. Et donc l'ordre de Vienne lui convient plutôt. même à ce que des chrétiens puissent être sous domination ottomane. Et donc, la révolte est mal comprise à Rome. La révolte grecque, c'est du désordre. Ça remet en cause, finalement, un principe qui avait établi la paix en Europe, mais évidemment, en avalisant la domination turque. Et les puissances occidentales et la Russie vont quand même intervenir. C'est là, alors dans la déclaration du pape, il n'y fait pas véritablement allusion.
Oui, parce que ce ne sont pas les catholiques, ce sont plutôt les États qui
alors,
interviennent.
Ce sont les États. Mmh. C'est-à-dire que la Russie a tout intérêt à intervenir parce que son rêve, c'est d'occuper Constantinople et le Bosphore. Et donc, elle aide le petit frère orthodoxe ou la petite sœur grecque orthodoxe, elle qui est la grande puissance orthodoxe. Et il y a également la France et la Grande-Bretagne qui interviennent pour des raisons géopolitiques et qui seraient un peu longues à expliquer. Mais globalement, ils préfèrent intervenir plutôt que de laisser les Russes seuls dans la Méditerranée orientale. Et il y a une très grande bataille qui va jouer, je dirais, en faveur de l'indépendance de la Grèce. C'est la bataille de Navarin, où les flottes anglo-françaises vont détruire la flotte ottomane. Et donc, ça va grandement participer à l'indépendance de la Grèce. Et ce qui fait d'ailleurs que les relations avec la Grèce et la France ont toujours été, finalement, dans l'ensemble, plutôt très cordiales. C'est le souvenir de la guerre d'indépendance tout de même.
Alors justement, vous parlez de relations cordiales. Est-ce que dans cette demande de pardon du pape François, il n'y a pas une espèce de tradition entre une intervention d'un pape et puis des responsables de l'Église orthodoxe ?
Oui, alors au XXe siècle, les choses se sont améliorées. Il y a eu indéniablement des gestes extrêmement forts. Quand le futur pape Jean XXIII était visiteur apostolique en Bulgarie et en Turquie, il avait l'habitude d'aller rencontrer les responsables orthodoxes. Je dirais même à la manière Roncalli, il téléphonait et il s'invitait pour le repas.
Ah oui,
voilà,
très simple.
Il disait je viens après-demain, nous partagerons fraternellement un repas, etc. Ce qui fait qu'il connaissait quand même le monde orthodoxe par cette mission dans les années 30. Et ensuite, il y a le geste, alors là, il est spectaculairement beau, si j'ose dire. C'est en 1964, la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras. C'est lors du voyage en Terre Sainte de Paul VI. Et ils vont lever, rendez-vous compte, les excommunications de 1054. C'est-à-dire que 1054, qui avait été donc un moment où on finalisait une rupture qui s'étalait depuis quelques siècles déjà, eh bien, désormais, les excommunications sont levées.
Enfin, et, il a fallu
oui,
du temps.
Enfin. Mmh. Et les deux grandes personnalités religieuses vont donner une bénédiction commune, côte à côte. Donc effectivement, là, je dirais, c'est la fin de cette grande déchirure. En tout cas, c'est le début d'un vrai dialogue que va continuer Jean-Paul II et ses successeurs. Ce qui ne veut pas dire que les relations sont toujours extrêmement simples, parce que au sein du monde orthodoxe, il faut savoir quand même qu'il y a des divisions. En ce moment, les relations sont très tendues entre Kiev et Moscou.
Oui.
On sait pourquoi.
Oui, on sait pourquoi.
Et Constantinople aime dialoguer avec Rome, parce que Constantinople est un siège prestigieux de l'orthodoxie, mais qui représente peu de monde. Il y a quasiment plus de chrétiens à Constantinople. Et c'est une manière pour le patriarche de Constantinople d'exister par rapport au puissant patriarche de Moscou.
Merci beaucoup Philippe Houreau, il est malheureusement temps de s'arrêter. Vous avez accepté notre invitation dans cette matinale et vous nous avez, merci, grandement éclairé sur cette demande de pardon que le pape François a faite aux orthodoxes le 4 décembre à l'occasion de son voyage en Grèce. Merci.
Avec plaisir.